France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Bercy confirme que la privatisation d'Aéroports de Paris est suspendue. Suspendue le temps de la procédure engagée pour un éventuel RIP, un référendum d'initiative partagée. Hier après-midi, en effet, le Conseil constitutionnel a donné le premier feu vert à un RIP sur ce dossier. La demande est portée par des parlementaires de tous bords politiques. Elle doit maintenant, cette demande, recueillir 4 700 000 voix pour être examinée par le Parlement. Le Parlement et l'Assemblée nationale, justement, les députés y ont voté hier à l'unanimité l'interdiction de la pêche électrique en France, dans les eaux territoriales françaises en tout cas. Le pays anticipe ainsi l'interdiction générale prévue dans l'Union européenne en 2021. La mobilisation était en légère baisse par rapport à l'année dernière. Hier, les syndicats de fonctionnaires se sont unis pour dénoncer la réforme gouvernementale qui prévoit entre autres un recours élargi aux contractuels dans la fonction publique. Le ministère de l'Intérieur évoque près de 109 000 manifestants en France. 250 000 répond la CGT. Ils sont journalistes, politiques et scientifiques, tous fichés secrètement par la firme américaine Monsanto. En tout cas, une enquête menée par France 2 et Le Monde l'affirme. Il s'agirait de centaines de personnalités en France en fonction de leur position sur les pesticides et notamment sur le glyphosate. L'actualité de ce vendredi matin, elle est marquée également par cette nouvelle augmentation des droits de douane sur les produits chinois importés aux États-Unis. 200 millions de dollars de produits sont concernés. Cette surtaxe s'applique malgré la reprise des négociations cette nuit entre Washington et Pékin. Discussions qui vont reprendre ensuite ce soir. Donald Trump menace déjà l'ensemble des produits chinois pourraient être surtaxés dans les jours qui viennent. Le président américain qui par ailleurs dit étudier très sérieusement la situation en Corée du Nord. Cette nuit, l'agence étatique nord-coréenne a évoqué un exercice de frappe à longue portée. Le dirigeant Kim Jong-un en aurait donné l'ordre. Hier, son voisin du Sud évoquait le lancement de 2 projectiles, probablement là des missiles de courte portée.
France Culture et le Centre Pompidou vous invitent au week-end Imagine. 2 jours de marathon radiophonique, de débats, de masterclass et de performances ouverts à tous. Quelle histoire ? C'est le thème de cette 4e édition. Un festival de rencontres et d'échanges qui vous fera voyager dans le temps, de la préhistoire jusqu'à la fin du monde. Avec notamment les historiens Patrick Boucheron, Marilène Batou-Matisse, Pape Ndiaye, les scientifiques Yves Coppens, Étienne Klein, les artistes Gloria Friedman, Sébastien Salgado. Le week-end Imagine, les 11 et 12 mai, en public au Centre Pompidou à Paris et sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr, centrepompidou.fr et sur les réseaux sociaux.
Nous parlons bande dessinée maintenant ce matin, ce vendredi, avec Toufik Hakem. Il est 6h03 sur France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver tous les vendredis. Vous le savez, on parle de l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage, d'un héros de bande dessinée très emblématique qui a marqué notre jeunesse. Et quand je dis qui a marqué notre jeunesse, je peux être très large parce qu'en fait, il a marqué plusieurs générations. Il s'agit de Raon. Raon, fils de Crao, le Cro-Magnon blond qui est né dans les pages de Pif Gadget il y a tout juste 50 ans. Pour nous en parler aujourd'hui, à l'occasion de la réédition de toutes les aventures de Raon dans des albums luxueux, 26 au total, aux éditions Soleil, notre invité est l'universitaire et journaliste Romain Brett et nous aurons au téléphone un autre amateur de Raon, un admirateur de longue date, le dessinateur Christophe Blin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Romain Brett, vous êtes spécialiste de la bande dessinée, mais universitaire d'abord, avant d'écrire pour Le Point. Raon, ça vous évoque quoi ?
Raon, ça m'évoque d'abord des souvenirs d'enfance, quand j'avais une dizaine d'années, quand j'allais acheter mon Pif Gadget, donc avec mon père, et que je découvrais notamment les fameux gadgets, et parmi ces gadgets, il y avait celui iconique du coutelas, notamment, que j'ai gardé très longtemps.
Le coutelas de Raon.
Ouais, le coutelas de Raon, qui symbolise ce personnage. Et donc ça m'évoque cela, mais ça m'évoque aussi évidemment un personnage qui m'a accompagné assez longtemps, et que j'ai eu grand plaisir à retrouver il y a peu de temps, donc à l'occasion de la réédition donc des aventures de ce personnage pour fêter ses 50 ans. Rahan, il représente beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, c'est un personnage qui a été créé de manière un peu par accident, comme un grand nombre de héros ou de protagonistes de bandes dessinées, puisque à l'origine, André Chéré, le dessinateur, voulait faire un Gaulois. Il avait l'idée de faire un Gaulois. C'était Astérix avait 10 ans à ce moment-là, nous sommes en 1968 à peu près. Et donc, il avait dans l'idée de faire un Gaulois. Donc, il a ce personnage blond hein, pour lequel il fait des essais et qu'il veut proposer à Pif Gadget. Enfin, à Pif, qui n'est pas encore Gadget, à Pif. Et de l'autre côté, vous avez Roger Lécureux, qui est le scénariste, qui lui a dans l'idée de faire une bande dessinée préhistorique. Et donc, ils vont créer ce personnage qui incarne aujourd'hui, je dirais, une forme d'idéalisme, on pourrait dire. C'est un héros parfaitement positif, mais...
Progressiste.
Hein. Oui, progressiste, hein, bien
sûr. Et en même temps, c'est Pif Gadget. Hein.
C'est Pif Gadget, on est évidemment Pif, on est en 68. Bon, Pif Gadget appartient au Parti communiste. Donc, c'est un héros qui, comme beaucoup de héros à cette époque, incarne des valeurs positives, progressistes, un humanisme, on peut le dire, voilà. Mais c'est une bande dessinée qui, lorsqu'on se replonge aujourd'hui dedans, n'est pas exempte d'aspérité ou de complexité qui n'apparaissait peut-être pas à l'enfant que j'étais alors, mais qui évidemment apparaissent davantage à l'adulte que je suis devenu.
Par exemple,
le rapport de Rahan aux autres hommes, puisque Rahan est un personnage finalement très solitaire. Très solitaire, errant, il marche hein, donc toujours vers le soleil, dit-il, hein, puisque c'est le soleil qui guide un petit peu ses pas. Il rencontre évidemment énormément de personnages et d'humains, mais c'est un personnage éminemment seul, qui est un orphelin, puisqu'il a perdu par deux fois ses parents. Il a perdu ses parents biologiques, qui sont morts alors qu'il était tout bébé, en le défendant donc contre des animaux. Et puis il a perdu une deuxième fois ses parents adoptifs, hein, notamment Krao, le fameux Krao, son père, qui l'a formé. Bon, et donc c'est un personnage qui est un personnage éminemment seul. Et c'est drôle parce que quand j'ai lu Rahan, m'est venue en fait aussitôt une phrase de Pasolini que j'aime beaucoup, qui est « mon indépendance, qui est ma force, implique la solitude, qui est ma faiblesse », en fait. Et c'est drôle parce qu'en lisant Rahan, cette phrase de Pasolini m'est venue en tête, parce que c'est exactement Rahan, c'est-à-dire une indépendance, voilà, il est seul, et donc c'est aussi sa force, mais il y a une vraie solitude chez Rahan, puisqu'il reste finalement assez peu hein, chez les tribus qu'il rencontre, et inlassablement, hein, il avance. Alors c'est un peu, je dirais, c'est un peu son destin, parce que la vocation, je pense, de Rahan, telle que l'avait pensé Roger Lécureux, c'était aussi cette idée de transmission de savoir. C'est-à-dire que Rahan, à chaque fois qu'il arrive, donc, est celui qui va dissiper l'obscurantisme, dissiper la superstition. Bon, c'est un personnage qui apporte évidemment une forme de lumière partout où il va, et donc il a vocation à diffuser ce savoir partout où il va. Donc, de fait, il ne peut pas rester, il ne peut pas être sédentarisé, il est obligé d'être nomade, et donc il va diffuser ce savoir, et je crois que c'est sa vocation première, mais c'est un petit peu aussi d'une certaine façon sa punition, parce qu'il ne peut pas rester sur place, parce qu'il est inlassablement appelé à être cette incarnation du savoir, cette incarnation de la découverte, dont il entend faire profiter tous les hommes, en fait.
Romain Brett, une de nos collègues de France Inter, a dit que Rahan était de gauche comme Tarzan est de droite. Est-ce que cette comparaison vous paraît appropriée?
Je ne sais pas si on peut politiser les héros de bande dessinée.
Non, mais au moins, elle dit que Rahan a été créé en opposition à Tarzan.
Oui, alors Tarzan, je pense qu'il y a évidemment tout le contexte à la fois du colonialisme, enfin de la question raciale hein, qui se pose évidemment quand a été créé le personnage. Dans le cas de Rahan, il a des valeurs incontestablement qui sont la générosité, bon, qui sont incarnées dans les fameuses griffes hein, du collier, hein, puisque les griffes du collier sont censées incarner les valeurs hein, qu'il doit défendre et qu'il s'est engagé à défendre auprès de Krao. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu très peu d'ouvrages écrits sur Rahan, en fait, de littérature secondaire. C'est pas un personnage qui a énormément intéressé entre guillemets, les universitaires, ou à la différence, bon, évidemment, de Tintin, bon, ou d'autres héros de ce type. Mais pourtant, je pense que c'est un héros qui n'est pas exempt d'intérêt. Il incarne ses valeurs donc de générosité, de loyauté. Il a été créé à une époque, évidemment, où il y a une, je dirais, une domination, entre guillemets, de la gauche sur la vie intellectuelle ou la vie artistique, hein, dans les années 60, post-68. Hein, donc, on crée des personnages qui évidemment... Il est créé dans la foulée de mai 68, hein, Rahan. Donc, bien évidemment, il est tout à fait orthodoxe de ce point de vue-là. Et il respectera ses valeurs tout au long, je dirais, de sa vie, qui a été finalement assez longue, puisque après la mort de Roger Lécureux, son fils, en 2000, a repris les scénarios. Donc c'est un personnage qui a une vie très longue. Rahan de gauche...
Par opposition à Tarzan.
Par opposition à Tarzan.
Vous fait sourire.
ça me fait sourire parce que... Moi, je crois surtout que c'est un personnage qui est assez universel et qui est assez intemporel. Et c'est ça qui me frappe beaucoup, surtout. Parce que quand j'ai relu Rahan, je l'ai fait lire à mon fils de 10 ans, qui, comme tous les enfants de cet âge, est plongé dans les mangas majoritairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette tranche d'âge consomme du manga beaucoup plus que toute autre forme de bande dessinée. Or, il s'est plongé dedans, mais il s'est immergé. C'est-à-dire qu'il était totalement fasciné par ce personnage. Et c'est ça qui m'a aussi donné envie d'écrire sur Rahan, parce que c'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout marqué auparavant. Il y a un côté, il faut le dire, il y avait un côté sans aucun caractère péjoratif. Il y a un côté un peu ringard de Rahan aujourd'hui, qui est un personnage qui apparaît un peu naïf, bon, sans épaisseur, bon... Mais en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'univers dans lequel il évolue, les valeurs qu'il incarne, le rapport qu'il entretient avec les hommes et avec la nature, quelque chose qui, aujourd'hui, m'apparaît tout à fait contemporain, tout à fait moderne, parce que c'est quelqu'un qui s'interroge sur la nature, sur son rapport à la nature, sur le rapport qu'il entretient avec les hommes, sur la violence des hommes, parce que Rahan est quand même une bande dessinée assez violente, je l'avais oublié. Quand j'ai relu Rahan, c'est une bande dessinée très violente. Il faut pas oublier que Roger Lécureux le fait mourir, hein, en 1977 dans une bande dessinée qui m'avait profondément marqué. Hein.
Qui nous a tous marqué. Effectivement, voilà. C'est la première fois qu'on parle de la mort aux enfants, qu'un super-héros va mourir, et puis record de vente de PIF qui atteint le million d'exemplaires.
C'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, cette mort de Rahan.
Fausse mort de Rahan,
mais alors représentée de manière vraiment très réaliste. Et c'est ça, je crois, qui a pu marquer toute une génération de lecteurs, et marquer de façon extrêmement réaliste. Et puis surtout, moi, ce qui m'a profondément marqué, c'est pour ça que c'est peut-être ces valeurs de gauche qui semblent incarner, peut-être, je sais pas, mais c'est la conséquence de sa mort, c'est-à-dire extraordinaire, c'est-à-dire l'ensemble des tribus qu'il a rencontrées, qui, à la nouvelle de sa mort, se rassemblent, pour honorer sa mémoire. Bon, on parle de Notre-Dame, c'est les funérailles de Victor Hugo à Paris, la mort de Rahan, c'est quelque chose de ce type, hein, en fait, pour moi. C'est-à-dire toutes ces tribus auxquelles il a apporté le savoir, auxquelles il a apporté une forme de paix et de connaissance, qui se rassemblent pour honorer sa mémoire. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est assez unique dans la bande dessinée contemporaine. Alors, c'est vrai que c'est une fausse mort, mais je dirais qu'à travers cette fausse mort, il y a tout ce qu'incarne Rahan qui est incarné finalement dans la bande dessinée. Et moi, je trouve que cet épisode-là en particulier est un monument à la bande dessinée contemporaine.
Comment Rahan a évolué, Romain Brac?
Finalement, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il évolue assez peu. C'est-à-dire que c'est un personnage, alors qui évolue assez peu. C'est un personnage qui reste assez constant, c'est-à-dire que les histoires, hein, qui étaient conçues, il faut quand même le rappeler, pour être éditées en magazine. La première fois, je crois, que Rahan est édité en album, c'est 1984. Donc c'est 15 ans après sa naissance. Hein. Donc à l'origine, c'est quand même un rythme qui était celui des bandes dessinées dans les années 60-70, qui est celui des magazines. C'est un personnage qui finalement reste assez constant dans ses engagements, dans ses valeurs. De ce point de vue-là, il évolue assez peu, mais je crois que c'est précisément ce caractère un peu répétitif qui a fait son succès aussi. C'est-à-dire qu'on s'attendait à voir Rahan se confronter à des animaux, rencontrer des hommes ou des peuplades qu'il n'avait jamais vues, inventer des nouveaux objets, parce que Rahan c'est peut-être sa première caractéristique, est un extraordinaire inventeur. Il y a un petit côté Léonard de Vinci hein, dans Rahan, dans cette observation de la nature, hein, comme le faisait le vieux Léonard, donc l'observation de la nature, la fascination pour la nature, pour les animaux, et l'envie de reproduire finalement cela, ou de comprendre les mécanismes de la nature. Donc il y a ce côté, je dirais, un peu mécanique dans le personnage, qui fait que c'est un personnage qui, du point de vue peut-être un peu psychologique, évolue assez peu. Rahan ne tombe pas amoureux, par exemple, même si il y a un épisode où on sent qu'il est troublé par une jeune femme, mais c'est un personnage qui ne tombe pas amoureux. Il évolue finalement assez peu, mais je crois que c'est précisément ce qui a fait son succès, cette constance, ce caractère entre guillemets un peu mécanique, mais qui n'est jamais froid. C'est un personnage qui par sa fougue, par sa générosité, je crois, permet de compenser justement peut-être ce manque de d'épaisseur psychologique. Faut pas oublier que c'est quand même un homme préhistorique, hein, Rahan. Donc l'épaisseur psychologique de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui relève de la littérature romanesque du 19e siècle. Donc en faire un personnage qui est surtout mu par ses instincts finalement, ou par ses sensations, c'est quelque chose finalement d'assez cohérent avec ce qu'il est, me semble-t-il.
Rahan, fils de Crao, Rahan, fils des âges farouches, et bien l'enfant de Lycureux et de Chéré, quelle est la part du dessinateur et du scénariste dans la fabrication de ce mythe, de ce héros de bande dessinée?
Le trait, il faudrait pas oublier évidemment le trait d'André Chéré, qui a contribué pour beaucoup au succès de Rahan. Le trait de Chéré est un trait extrêmement généreux, assez sensuel. Rahan plaisait à un public féminin, hein, donc il y avait un désir. Il peut susciter un désir. Hein, un Rahan, bon, il est parfaitement proportionné. Il y a un article qui m'a beaucoup inspiré quand je réfléchissais à Rahan, un article de Christine Kosaifi, qui est une antiquisante et qui a fait une comparaison entre Vitruve, le grand théoricien de l'architecture, de l'harmonie, de l'équilibre, et la série Rahan. Alors c'est un article tout à fait éclairant, où elle montre que le souci d'équilibre, de symétrie, qui est propre à Vitruve, hein, on sait que son homme parfait, c'est le modèle pour Léonard de Vinci, hein, bon, et donc de ce souci de l'équilibre, il se trouvait également dans le physique de Rahan, mais également dans l'univers de graphique de Chéré, avec un corps qui est un corps donc évidemment sensuel, parfait, mais aussi dans l'équilibre de la planche, le traitement graphique des éléments naturels, où il y a une luxuriance extrême. Hein, si vous lisez Rahan, vous vous perdez dans les pages. C'est un univers extrêmement luxuriant, très très très riche. Et donc, la part du dessin, hein, la part de ce personnage blond, il ne faut pas oublier qu'il est blond, que ses cheveux de feu, il est appelé cheveux de feu par les autres hommes, là où tous les hommes quasiment sont bruns. Hein, donc c'est quand même une de ses singularités. Graphiquement, il y a une marque immédiatement reconnaissable, il y a une patte reconnaissable, hein, de Chéré. Et la rencontre des deux mondes, hein, celui de l'écureux et le trait de Chéré, a créé un univers qui, pour moi aujourd'hui, relève, on peut le dire, du mythe en bande dessinée. Hein. Rahan est une forme de mythe aujourd'hui en bande dessinée. On en parle moins évidemment que Tintin ou d'Astérix comme mythe, hein, ou incarnation, mais quand vous citez Rahan à peu près n'importe qui, c'est absolument qui c'est. Hein. Il n'y a pas beaucoup de héros de bande dessinée dont on peut parler avec à peu près n'importe qui, donc d'une génération évidemment, bon, une génération de au moins de trentenaire ou quadragénaire. Mais même les jeunes générations, entre guillemets, de 20 ou 30 ans, sans avoir lu la bande dessinée, ont aussi pu connaître le personnage par une série de dessins animés qui avait été diffusée dans les années 2000 et qui a pas mal marché à la télévision.
Et nous avons au bout du fil avec nous Christophe Blin. Bonjour Christophe Blin.
Bonjour Tofik Hakem.
Alors il paraît que vous aussi, vous êtes un grand fan de Rahan.
Absolument. Je suis un grand fan de Rahan qui l'a découvert tout petit et qui a eu un choc esthétique majeur. Un vrai choc, c'est très choquant Rahan quand on est gamin. Et c'est justement ça qui crée une forte fascination. Je ne sais pas du tout ce que ça donne quand on le lit adulte, mais gamin ça marche à fond parce que C'est une bande dessinée extrêmement énigmatique, à tout point de vue, tant du point de vue des histoires que du dessin, qui est formidable et très difficile à identifier, avec des obsessions et des façons de montrer les choses que je n'ai trouvées dans aucune autre bande dessinée.
Par exemple ?
Eh bien, bah déjà, la représentation, ce sont des hommes préhistoriques, et évidemment, c'est une représentation totalement fantaisiste, mais c'est raconté et dessiné d'une telle façon que ça donne l'impression que c'est réaliste, alors que ça ne l'est pas du tout. Imaginez un homme préhistorique comme Rahan, athlétique, grand, avec un petit slip en peau de je ne sais plus de quoi, de gorak, d'un animal, et avec un coutelas en ivoire et des longs cheveux blonds. C'est tout ce qu'il porte sur lui comme vêtement, et qui va de tribu en tribu. Il erre dans la nature au hasard. Il demande à son coutelas, il le fait tourner sur une pierre pour que le coutelas décide, le hasard décide de l'endroit où il va aller. Et il va à la découverte du monde et il va enseigner, il va apprendre des gens qu'il va rencontrer. Et il va leur enseigner des choses, parce que Rahan est tellement intelligent, c'est un surdoué qui invente le parachute, la dynamite et la démocratie à l'âge de, on ne sait pas bien quel, Néandertal, on ne saurait pas le définir. Il a un physique légèrement différent d'une autre, parce qu'il a des arcades sourcilières très développées, mais c'est un vrai surhomme. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas comment le définir, d'humaniste, d'étrange, qui fait croire que ça pourrait être quelque chose de réaliste, parce qu'ils sont... Tous les personnages, et Rahan en premier, ont des préoccupations très humaines, très effrayantes, parce qu'ils vivent dans un monde sauvage. Et en même temps, la façon qu'ils ont d'y résister, d'essayer d'être civilisés, est tout à fait étrange. Et Rahan est solitaire, mais il rencontre des tribus qu'il essaye de civiliser encore plus. Par exemple, il leur apprend la démocratie, il leur apprend à voter, il leur apprend à lutter contre les... Souvent, ils ont un problème qui est dû à un problème de catastrophe, enfin de naturel, de l'endroit où ils vivent. Parfois, des monstres. Il y a des animaux préhistoriques qui, évidemment, ne correspondent absolument pas
aux époques.
À l'époque. Ouais. Oui, puisque les hommes préhistoriques sont beaucoup plus proches de nous, ils n'ont pas plus de chances de connaître des animaux préhistoriques que nous, en fait. Des dinosaures. Voilà. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est une bande dessinée qui est destinée aux enfants et qui est emplie d'une violence complètement débridé, et de sexe aussi. Alors le sexe n'est jamais montré directement, il est même montré de manière assez malicieuse, puisque Chéret mettait des messages subliminaux dans ses dessins. Il y a notamment une planche qui, après, pour les fans, a été assez célèbre, où il dessine Rahan qui a rencontré une femme, et on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, mais on devine, elle se rhabille de sa peau de bête, et donc on devine qu'ils aient passé des choses, elle lui demande de rester, lui doit partir, parce que il veut aller à la découverte du monde, il ne peut pas s'installer en couple, bien qu'il trouve qu'elle est vraiment très sympa, très jolie, mais bon, il faut qu'il tranche. Et dans le fond du dessin, dans l'arrière-plan, il y a des collines qui sont représentées, et en fait, quand on le regarde bien, les collines sont des cuisses de femmes écartées. Et Toufik, relisez-le, et vous allez voir qu'en fait, c'est plein de messages érotiques subliminaux. C'est très sensuel, très physique et très brutal, Rahan.
Est-ce que le trait de Chéret vous a marqué d'une manière ou d'une autre, Christophe?
Énormément, parce que, alors, il y a quelque chose, quand on est enfant, et qu'on est un enfant qui dessine, un enfant, un adolescent qui dessine, et qui est particulièrement, tous les enfants dessinent, mais évidemment, moi, j'étais plus versé que les autres là-dessus, on recopie, on a envie de copier ses idoles. Et alors, j'ai recopié du Lucky Luke, du tout ce que vous voulez. Rahan, c'était extrêmement difficile, parce que Chéret, il emploie la voix la plus dure, c'est-à-dire que tous ses personnages sont nus, quasiment. Ils sont pas tout à fait nus, mais c'est toujours des gens à poil. C'est ce qui est le plus difficile à dessiner, c'est de manière réaliste.
Et pourtant, vous avez un point en commun, c'est que vous adorez dessiner les mouvements, et il y a toujours des scènes d'action. C'est tout en mouvement, tout est en mouvement dans les aventures de Rahan.
Ces planches sont d'une extraordinaire souplesse physique, énergie et fluidité, et effectivement, particulièrement Rahan, et un personnage incroyablement fluide et souple, même sa chevelure, on l'appelle cheveux de feu, ce qui est, en plus, il y a un vocabulaire dans Rahan qui est d'une poésie folle, parce que chaque animaux, phénomènes physiques et personnages à un surnom. Les crocodiles s'appellent peau de bois, les requins sont des peaux bleues, et Raon qui a une longue chevelure blonde alors qu'il n'y avait quasiment pas de blond, il rencontre très peu de blond dans son univers, on l'appelle cheveux de feu.
Et l'enfant des âges farouches, c'est beau, c'est poétique,
oui,
en plus.
Oui, qui est le fils adopté de Krao, enfin, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est donc très marquant, même d'un point de vue du vocabulaire, et très intelligent, parce qu'on a l'impression d'apprendre quelque chose quand on est gamin. On se doute bien que ça ne raconte pas quelque chose, j'allais dire, préhistorique, de historique, enfin, quelque chose qui peut correspondre à une vie réelle des hommes préhistoriques de cette époque-là. Mais on a quand même l'impression d'apprendre quelque chose. C'est ça aussi qui donne un sentiment de réalité quand on est gamin. Et la violence est omniprésente. C'est-à-dire que quand ils se battent avec des animaux sauvages, quand ils tombent dans une rivière, il y a des scènes, je pense que tous les lecteurs de Raon, les lecteurs et lectrices de Raon peuvent se souvenir de ça, parce que ça marque énormément. C'est des images qui frappent et que vous gardez toute votre vie. Quand un homme tombe dans une rivière qui est infestée de piranhas, il se fait dévorer et on voit les images de l'homme se faire dévoré et il est démembré, les os apparaissent à nu, il est à moitié, il n'est pas complètement réduit à l'état de squelette, il est à moitié, ce qui est encore pire. Enfin, c'est des images qui sont gore. Raon est assez gore. Et le traitement des couleurs était assez étonnant aussi, parce que je ne sais pas s'il était maîtrisé par Chéret lui-même, mais il y avait des choix qui étaient très hardis, assez culottés. Des fois, les hommes étaient représentés de manière abstraite en bleu. Il y avait des choix de couleurs parfois qui étaient très abstraits, mais qui ne gênaient pas la lecture. On l'admettait tout à fait. C'était des codes couleurs de l'époque comme ça qui étaient très frappants. Ouais. Et ce Raon des années 70, c'est vraiment la grande période de Raon, c'est de sa création. Je crois que c'est 69 si je dis pas de bêtises.
Bah oui, c'est les 50 ans de Raon. En voilà. Fait, les 50 ans de Raon, Christophe Blanc, et avec vous.
Oui, oui.
Vous parlez des couleurs, et effectivement, on est dans les années 70 avec Raon. Et pour terminer, Christophe Blanc.
Eh ben, Raon m'a énormément marqué dans mon propre travail, pour en parler, même si je ne le cite pas, je ne me suis jamais inspiré directement du trait de Chéret. En réalité, je le cite de manière cryptée. Il m'arrive très souvent de faire une référence émouvante à Raon, et la chose qui me manque, c'est que André Chéret est toujours vivant, le curieux, le scénariste est mort. Malheureusement, j'ai pas pu entrer en communication avec lui, et j'ai pas pu lui parler, parce que il a eu des problèmes de santé, il a eu un AVC, je crois. C'est un des grands regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir pu parler de cette fascination avec ce monsieur, pour lequel j'ai une grande admiration, qui n'est pas considéré comme un dessinateur majeur, mais qui, je crois que tous les lecteurs qui ont été lecteurs enfants ont été très très marqués par cette série et les a profondément touchés, et elle vous apprend, elle vous rend intelligent, ça fait partie des trucs qui vous marquent enfant et qui développent votre imaginaire et votre intelligence. Je trouve que c'est une très très...
Et on est d'accord.
Une bande dessinée majeure.
On est d'accord. Merci beaucoup Christophe Blanc. Merci d'avoir participé à cette émission pour fêter la réédition des aventures de Raon, pour marquer le cinquantenaire de sa naissance. Quelle histoire que l'histoire de Raon. Alors justement, ce week-end, c'est le week-end Imagine, c'est-à-dire le festival de France Culture et du Centre Pompidou Beaubourg. Si vous êtes parisien ou si ce week-end vous êtes de passage à Paris, surtout venez, rejoignez-nous les samedis et dimanches de 11h à 22h pour un marathon radiophonique où il y aura des performances, des masterclass, tout ça bien sûr autour de la grande exposition de Beaubourg pour cet été, l'exposition Préhistoire, une énigme moderne. Je serai ravi de vous retrouver samedi après-midi dans une des tables rondes, mais sinon il y aura aussi une performance de Chloé Delhomme, des enregistrements de notre nouvelle émission de jeu, l'épingle du jeu, avec des vieux papous et des nouveaux venus. Si vous voulez avoir le détail, vous avez tout à votre disposition à la page franceculture.fr. Et si vous voulez assister à l'enregistrement de l'épingle du jeu au Centre Pompidou dans le cadre du festival Imagine, quelle histoire, c'est tout à fait gratuit, mais vous êtes obligé de vous inscrire auparavant en passant par franceculture.fr. Bref, on se retrouve ce week-end et on se retrouve pour un nouveau Réveil Culturel lundi. Bonne matinée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture, Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Engagez-vous aux côtés de la Fondation Musique et Radio, Institut de France créé par Radio France. C'est en soutenant les actions de la Fondation que vous pourrez contribuer au rayonnement de la musique en France et à travers le monde, à la création et à l'éducation des jeunes générations en participant à l'éveil musical des enfants, au programme en faveur de l'égalité des chances ou encore à l'apprentissage du chant choral. Engagez-vous et donnez à tous les clés d'accès à la musique. Toutes les infos sur maisondelaradio.fr/mécénat.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut mettre toute son énergie pour que le Rassemblement National ne soit pas en tête aux élections européennes. Il l'a dit hier, là en marge d'un sommet européen, et entre ainsi en campagne. Marine Le Pen lui a répondu, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous comprendrons aussi pourquoi le chef de l'État reçoit le patron de Facebook aujourd'hui, la deuxième fois en 2 ans. Nous irons en Afrique du Sud. Les premiers résultats des législatives donnent l'ANC largement en tête. Et puis dans la région syrienne où les combats continuent, l'ONU en discutera aujourd'hui lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Emmanuel Macron entre donc pleinement en campagne pour les élections européennes. Le président français ne s'en est pas caché hier lors du sommet européen de Sibiu en Roumanie. À 2 semaines des élections, il s'en est pris ouvertement au Rassemblement national, donné en tête par plusieurs instituts de sondage. Emmanuel Macron à propos du RN.
C'est un projet de fait, gravitairement, de sortie de l'euro, de destruction de nos acquis au sein de l'Union européenne comme de la zone euro. Donc c'est un projet de désunion. Eh bien, la désunion fait rarement la force. Je crois que nous avons besoin de tout, sauf d'avoir le Rassemblement national en tête. Et donc, je mettrai toute mon énergie pour que le Rassemblement national ne soit pas en tête.
Et voici maintenant la réponse de Marine Le Pen hier soir. La présidente du Rassemblement national estimait que le chef de l'État est désormais un chef de campagne.
Emmanuel Macron a choisi de ne plus être président de la République, mais d'être président de parti et en l'occurrence chef de campagne. Il transforme donc volontairement et de son fait cette élection européenne en référendum pour ou contre lui. J'accepte cela, mais dans ces conditions, il faudra qu'il ait la hauteur, l'honnêteté et la dignité qu'a eu le général de Gaulle et il devra partir. Si effectivement il perd cette élection européenne.
Voilà pour le face-à-face politique qui a fait réagir hier soir François-Xavier Bellamy, tête de liste pour le parti Les Républicains. Il y voit un combat de coq, un combat national mettant la démocratie hors jeu. La démocratie, justement, certains estiment qu'elle doit quelquefois passer par le référendum d'initiative partagée, le RIP. Et le dossier de la privatisation d'ADP à Aéroport de Paris s'en approche. Hier, le Conseil constitutionnel a validé la demande déposée par un groupe de 250 parlementaires de gauche et de droite. Bercy suspend donc l'éventuelle privatisation d'ADP le temps de la procédure. Pour qu'elle se poursuive, le texte doit maintenant recueillir plus de 4,5 millions de signatures en 9 mois. La contestation dans la rue à présent et cette mobilisation unitaire de la fonction publique, c'était hier. Entre 109 000 et 250 000 manifestants étaient présents selon le ministère de l'Intérieur et la CGT. Tous manifestaient contre la réforme de la fonction publique censée moderniser leur statut. Enseignants, personnels de santé et des administrations publiques dans 150 villes de France au total. Martine Bonnejean était notamment dans le cortège parisien, puéricultrice à la retraite. Elle assiste avec inquiétude à une dégradation des services public qui se joue, d'après elle, depuis des années.
Je souhaite garder et même rétablir les services publics tels qu'ils étaient au moment où ils fonctionnaient avec de réels moyens, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'équitable pour l'ensemble de la population. Et on a déjà perdu beaucoup de moyens ces dernières années. Les projets qui sont à l'ordre du jour vont faire perdre encore plus de moyens, voire démanteler des services publics. Je ne peux pas rester les bras croisés, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Des propos recueillis dans la manifestation parisienne par Manon Clavery. L'Assemblée nationale au chevet de Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Les députés vont se pencher sur le projet de loi encadrant la restauration de la cathédrale. Y sont inscrits les conditions de la souscription nationale, des déductions fiscales, le contrôle des fonds également, ainsi que les dérogations à certaines règles d'urbanisme, ce qui est critiqué par l'opposition. Le texte est ensuite programmé au Sénat le 27 mai prochain. Le patron de Facebook sera à l'Élysée cet après-midi, reçu par Emmanuel Macron. Macron. C'est la deuxième fois que Mark Zuckerberg s'entretient à Paris avec le président français, alors que la France travaille depuis plusieurs mois pour empêcher la propagation des propos haineux sur les réseaux sociaux. Et elle est obligée de s'associer à Facebook pour cela, car le réseau social touche plus de la moitié de la population française. Invité du journal de 22h hier soir sur France Culture, la députée UDI Agir Laure de la Raudière le précisait. Elle est spécialiste des questions numériques.
Facebook est une plateforme qui aujourd'hui regroupe 35 millions de Français. Il y a 35 millions de Français qui sont utilisateurs de Facebook et c'est un super outil pour communiquer entre amis, avec la famille. Mais depuis quelques années, en fait, Facebook est aussi un lieu de débat, notamment de débats politiques, et il y a des pratiques malveillantes qui se développent. Et donc le gouvernement a nécessairement besoin d'avoir des relations avec Facebook pour voir comment mieux lutter contre la propagation de contenus malveillants. Alors, c'est assez facile pour les contenus, pour la lutte contre le terrorisme, pour la lutte contre les images pédopornographiques en ligne, parce que c'est très facile à caractériser comme étant des images ou des contenus illicites. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour les propos haineux. C'est dans ce cadre-là qu'il faut travailler avec Facebook pour voir comment on peut le faire sans restreindre la liberté d'expression.
La députée Laure de la Raudière, interrogée par Stanislas Vazak. L'ANC se dirige sans surprise vers une victoire en Afrique du Sud. 36 heures après le vote, un peu plus de 70% des bulletins ont été dépouillés et donc le parti historique de Nelson Mandela, dirigé aujourd'hui par Cyril Ramaphosa, devrait remporter les législatives avec plus de voix qu'envisagé, Noé Ochebaudin.
L'ANC dépasse pour l'instant les estimations faites par les instituts de sondage. Le parti majoritaire était donné à 56% des suffrages. Il est pour l'instant, provisoirement, à plus de 57%. Un sursaut lié à l'image positive dont bénéficie Cyril Ramaphosa dans l'opinion, selon l'analyste Aubrey Matcheki.
Il y en a qui vont dire que l'ANC a raté ces élections, car pour la première fois, il passe sous la barre des 60%, malgré la candidature de Cyril Ramaphosa. D'autres vont dire que si Ramaphosa n'avait pas été là, l'ANC aurait fait bien pire. Et c'est pourquoi il doit être salué.
Un score élevé donnerait en effet plus de légitimité à Cyril Ramaphosa pour réformer son propre parti miné par les scandales de corruption. Le chercheur Richard Calland.
Tout score au-dessus de 56% voudrait dire que le leadership de Cyril Ramaphosa a contenu la chute de l'ANC ou l'a même stabilisé. Donc si l'ANC a une majorité confortable au-dessus de 56%, Cyril Ramaphosa pourra réellement se proclamer grand vainqueur malgré la mauvaise publicité de la corruption pendant les années Zuma. Et cela lui donnera plus de poids dans son propre parti.
L'ANC devra encore patienter une journée pour voir les résultats officiellement proclamés. Mais à moins que la date soit repoussée, en effet, la commission électorale enquête sur des soupçons de fraude. 19 personnes ont été arrêtées pour avoir voté deux fois mercredi.
Noé Ochebaudin à Pretoria pour France Culture. Au Venezuela, un troisième parlementaire de l'opposition s'est enfermé dans une ambassade à Caracas, l'ambassade d'Italie. Il est inculpé de soutien au soulèvement manqué du 30 avril dernier. L'opposant leader Juan Guaido dénonce un démantèlement du Parlement au Venezuela. L'armée syrienne et ses alliés ont repris à l'opposition une localité stratégique du nord-ouest de la Syrie hier. C'est là, dans cette région d'Idleb, que les combats et les raids aériens s'enchaînent depuis le mois de février. Et c'est dans ce contexte qu'une réunion d'urgence de l'ONU doit se tenir aujourd'hui, Aurélien Colli.
Une réunion du Conseil de sécurité, mais sans grand changement à attendre. Depuis longtemps, l'ONU et les Occidentaux ont perdu la main. C'est la Russie qui mène le jeu, avec Bachar al-Assad sur le terrain militaire et avec son processus d'Astana sur le terrain diplomatique, qui n'associe que l'Iran et la Turquie. Cette réunion servira donc surtout à rebraquer les projecteurs sur la Syrie, en dénonçant les violations du droit international et la situation humanitaire des civils qui ont fui les bombardements de ces derniers jours, pour maintenir un minimum de pression sur le régime syrien, qui rêve d'une reconquête totale de la province d'Idlib, mais viserait déjà deux axes routiers au sud, essentiels pour désenclaver Alep. Un minimum de pression aussi sur Moscou, qui justifie ses bombardements par les attaques des groupes djihadistes qui contrôlent aujourd'hui la province d'Idlib. Un minimum de pression enfin sur la Turquie, qui brille elle par sa retenue, alors qu'elle est censée garantir pour les rebelles la zone démilitarisée autour d'Idlib, créée en septembre avec Moscou. Une discrétion qui inquiète inquiète les opposants. Ils redoutent de voir les Turcs lâcher le sud d'Idlib aux mains de djihadistes qu'ils ne contrôlent pas pour obtenir en échange de la marge de manœuvre plus au nord contre les Kurdes.
Un bouquet législatif des meilleures lois du monde pour l'égalité femmes-hommes. Voici l'une des pistes proposées par le G7 ministériel qui est consacré à cette égalité. Il se tient à Paris en ce moment et de nombreux sujets sont balayés, Claude Guibal.
À travers le monde, réduire les inégalités hommes-femmes, cela commence parfois par lutter contre les grossesses précoces. En Côte d'Ivoire l'an dernier, elles ont été plus de 4000, parfois âgées de 9, 10, 11 ans, à tomber enceintes alors qu'elles étaient scolarisées. Pour ces jeunes filles, cela marque généralement la fin de l'éducation, l'arrêt de la scolarité, toute une vie qui bascule. Car les droits de la femme passent d'abord par l'école. Et Euphrasie Koulibaly, présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale en Côte d'Ivoire, compte bien profiter de la plateforme offerte par le G7 pour faire entendre son combat, un combat qu'elle entend pourtant replacer dans une perspective plus large.
Combien de ces pays du G7 ont des femmes premières ministres? Combien de ces pays ont un gouvernement qui respecte réellement l'égalité entre les hommes et les femmes? Je ne pense pas que ce soit les femmes capables d'occuper des postes ministériels qui manquent dans ces pays du G7, mais surtout peut-être que la volonté n'est pas encore assez suffisante pour pouvoir respecter cette égalité-là, que ce soit au niveau de gouvernement, que ce soit au niveau des salaires et à tous les niveaux d'ailleurs.
Car les pays du G7 sont loin effectivement de l'exemplarité. Un bouquet législatif des meilleures lois du monde pour l'égalité homme-femme va être proposé aux leaders du G7 qui devraient s'engager à mettre en œuvre au minimum une de ces législations. L'occasion peut-être de montrer l'exemple.
Après une accalmie ce matin en France, la pluie doit arriver par la façade ouest. Comptez 12 degrés à Metz, 13 à Paris ce matin, 16 à Lyon, 20 degrés à Marseille. Voilà pour la météo du jour. Il est 6h40. Bonjour Jacques Mignet.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées, Jacques. Le président turc Erdogan a obtenu l'invalidation de l'élection à la mairie d'Istanbul cette semaine. C'était Ekrem İmamoğlu du Parti Républicain du Peuple qui avait emporté ce scrutin, la principale force d'opposition.
Mais oui. Alors certes, c'est ce que rappelle l'éditorial du quotidien Le Monde. À peine 13 000 voix sur quelques 10 millions de votants. C'est par le vainqueur du candidat de l'AKP, le parti islamiste au pouvoir, mais les bulletins ont été comptés et recomptés et le Haut Conseil électoral qui a annulé le scrutin au prétexte qu'un certain nombre de chefs de bureaux de vote n'étaient pas des fonctionnaires, n'a pas contesté l'élection des maires d'arrondissement qui, elle, a été à l'avantage de l'AKP. Pour le président turc, lui-même ancien maire d'Istanbul, cette défaite dans la cité qui fut son tremplin politique était un camouflet. D'autant que perdre cette ville qui concentre un bon tiers de la richesse nationale, c'est aussi priver l'AKP de capitaux et de fonds publics précieux pour nourrir entrepreneurs amis et clientèle. Monsieur Erdogan, qui se targue pourtant de tirer sa légitimité du suffrage universel, a donc franchi un pas de plus dans le mépris ouvert des règles de la démocratie, souligne l'édito. Dans les pages idées de Libération, la journaliste et écrivaine turque Ece Temelkuran s'entretient avec Ala Kodmani de son dernier livre « Comment conduire un pays à sa perte ». Elle y analyse les mécanismes à l'œuvre au sein des mouvements populistes ces dernières années à partir de l'exemple turc. Pour elle, la composante islamiste du pouvoir autoritaire en Turquie ne change pas fondamentalement la donne et identifier les points communs aux diverses formes de populisme de droite, c'est déjà les combattre. Les étapes pour prendre le pouvoir et s'y maintenir se ressemblent en effet. Détraquer la raison, je cite, et affoler le langage, dissiper la honte dans un monde marqué par la post-vérité, démanteler les dispositifs judiciaires et politiques, etc. L'écrivaine insiste sur le lien avec le néolibéralisme qui caractérise les populismes de droite par rapport à ceux de gauche, outre les valeurs conservatrices que les premiers mettent en avant. Et elle justifie ainsi sa démarche comparative. C'est important pour les peuples indiens, turcs ou russes, sous l'emprise des populismes de droite, de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation. Et cela vaut aussi pour l'Europe, où certains partis d'extrême droite semblent se comporter comme les relais de l'influence russe pour miner la démocratie. Sous cet aspect, le pouvoir turc n'est d'ailleurs pas en reste. Dans le Figaro Vox, Laurent Bouvet dénonce le projet d'implantation d'écoles sur notre territoire annoncé par le président turc comme une forme de soft power à la fois religieux et politique. Pour l'auteur de la nouvelle question laïque, il est impératif que la France, comme les autres pays européens, prenne conscience du double défi que cela représente, islam politique et concurrence des modèles d'éducation, et donc en l'espèce qu'elle refuse qu'Erdogan impose ainsi son islam sous couvert d'éducation. C'est d'autant plus nécessaire eu égard à la volonté politique actuelle de limiter, sinon empêcher, l'influence de courants islamistes étrangers sur nos concitoyens musulmans, surtout au moment où une partie d'entre eux se mobilise pour organiser un islam de France. L'un des arguments du pouvoir turc repose sur l'existence de lycées français en Turquie qui n'accueillent pas seulement les enfants d'expatriés, mais aussi ceux de l'élite locale et notamment des dignitaires de l'AKP, en mode représailles préventives, comme le révélait Le Point. Dans le courant du mois d'avril, les responsables de ces lycées français ont reçu plusieurs visites modérément courtoises des fonctionnaires d'Ankara, venus pour contester les fondements légaux de la scolarisation d'enfants turcs dans ces établissements. Mais l'enseignement qui y est dispensé n'est évidemment pas confessionnel et ne témoigne pas d'une volonté de propagande auprès de tel ou tel public en Turquie. La revue Siècle 21 consacre un dossier aux littératures de résistance en Turquie. Timur Muhyiddin évoque dans sa présentation une scène underground, il y a même un mot en turc pour la désigner, yeralti, qui se développe, une scène donc qui se développe, des revues alternatives et des fanzines qui ont vu leur nombre exploser depuis 15 ans, des petites maisons d'édition innovantes et audacieuses où l'on traduit notamment des langues européennes mais aussi asiatiques. C'est la vie des lettres à l'ombre d'un pouvoir qui ne fait aucune place à la création littéraire. La révolte du parc Gezi en 2013 et sa répression ont joué comme un effet de bascule, aussi bien pour le pouvoir qui s'est radicalisé que pour les opposants à ce vaste projet immobilier qui prévoit la destruction du parc Taksim Gezi, l'un des rares espaces verts du centre d'Istanbul. La contestation a nourri une immense production spontanée de graffitis, de tweets, de chansons. Pour Yigit Bener, elle a même engendré une langue nouvelle, celle de l'humour, de la résistance, du partage, voire opposer la langue kurde ou celle des Kairas stambouliotes à la langue du pouvoir, langue ainsi définie, une langue qui fait la gueule. Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Alors on file avec vous en Arctique.
Oui.
Les États-Unis ont-ils perdu le Nord?
En tout cas, un certain trouble en début de semaine au Conseil de l'Arctique qui se tenait en Finlande. Les 7 partenaires de Washington se sont trouvés pris au dépourvu par le refus des États-Unis de signer la déclaration commune, une première en 20 ans pour l'organisation de coopération. En cause, une déclaration sur le climat. Les États-Unis, représentés par Mike Pompeo sur place, qui montre aussi des signes d'irritation envers la Chine et la Russie. Irritation ou fébrilité. On voit ça avec vous, Camille Escudé. Bonjour.
Bonjour, Xavier Martinet.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes géographe, chercheuse aux séries de Sciences Po et analyste au groupe d'études géopolitiques de l'ENS. Alors, aucune résolution. C'était du jamais vu en 20 ans pour cette organisation qui regroupe les 8 pays qui ont un pied au nord du cercle polaire. Donc, il y avait la question de refuser une formule sur le changement climatique pour une organisation essentiellement technique et environnementale. En ce sens, les États-Unis ont dynamité simplement le Conseil de l'Arctique.
Alors, je dirais pas qu'ils ont dynamité le Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, comme vous l'avez bien dit, c'est une organisation fondée sur la science, fondée sur la recherche scientifique, notamment en matière d'environnement et de développement durable. Et en cela, le travail du Conseil de l'Arctique, le travail de fond, va continuer. Ce travail de fond, il est réalisé par des experts des 8 États de l'Arctique, mais également des observateurs de la Chine, de la France, etc., d'experts autochtones. Tout ce travail-là de fond va continuer. Mais ce qui est certain, c'est que Mike Pompeo, il a un peu participé à mettre le projecteur sur la région et pas dans le meilleur sens, puisque lui effectivement il refuse une coopération qui depuis la fin de la guerre froide marchait très bien dans la région.
Oui, il avait même des termes semble-t-il assez clairs concernant la vocation du Conseil de l'Arctique. Il disait pendant les 20 premières années le Conseil de l'Arctique s'est payé le luxe de travailler en gros sur les matières environnementales. Désormais nous devons nous tenir mutuellement responsables, ne devons pas laisser ce forum être victime de subversion d'État arctique ou non. Donc là il visait la Chine et la Russie, c'est quand même un changement de vocation complète que veulent les États-Unis.
Je ne sais pas s'ils veulent un changement de vocation du Conseil de l'Arctique. Ce qui est certain, c'est que c'est qu'ils font une sorte de petit caprice qui renverse un peu la vocation ordinaire qui était la paix et la coopération autour des questions de l'environnement et qu'ils injectent de la réelle politique dans le jeu. C'est vrai que en plus de cette manière-là, les États-Unis mettent un peu le focus sur la Chine, qui jusqu'à présent, au Conseil de l'Arctique en tout cas, se fait extrêmement discrète. Elle a un rôle d'observateur, donc elle a aucune voix aux décisions. Mais il se trouve que la Chine agit en Arctique par d'autres moyens, des moyens économiques extrêmement actifs notamment. Mais au sein du Conseil de l'Arctique, encore une fois, la Chine, elle a aucun pouvoir. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'elle a aucune raison de se retirer, par exemple, du Conseil de l'Arctique en réaction à la déclaration des États-Unis. Je pense qu'en l'état actuel, tout le monde a intérêt au statu quo.
Oui, il y a un retrait qu'avaient craint certains membres de la représentation finlandaise qui avait la présidence du Conseil de l'Arctique, puisque c'est l'Islande qui va diriger désormais. Alors comment est-ce que vous interprétez cette crispation des États-Unis, sachant que déjà il y avait eu un revers pour Donald Trump, puisque les forages en Arctique sont interdits par une juridiction américaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce refus de signer une déclaration concernant le changement climatique?
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en 2017, lors de la précédente réunion ministérielle à Fairbanks, les États-Unis avaient signé, enfin Rex Tillerson à l'époque, le secrétaire d'État, avait signé sans problème la déclaration commune. Mais il est vrai que quelques mois après, les États-Unis quittaient l'accord de Paris. Donc là, déjà, il y a une première rupture qui montre peut-être cette réticence. Mais d'après moi, c'est aussi une réticence qui montre que les États-Unis se sentent un peu débordés en Arctique, notamment par la Russie, par la Chine. La Russie, c'est certain, c'est le leader de l'Arctique. C'est le pays qui a la plus grande surface dans la région, la plus grande surface de terre et de mer. C'est un pays qui a exploité son Arctique depuis beaucoup plus longtemps, pour qui l'Arctique a un intérêt stratégique beaucoup plus certain et qui l'exploite de manière beaucoup plus volontaire que les États-Unis. La Chine, est un nouvel acteur dans la région qui a une politique extrêmement active un peu partout dans tous les États de la région. Donc d'après moi, les États-Unis se sentent un peu débordés et tape du poing sur la table pour tenter de récupérer cette position de leader.
Oui, alors qu'on les prenne dans l'ordre, la Russie qui effectivement exploite déjà une grande partie de son pétrole qui provient de l'Arctique. Qu'est-ce qui inquiète le plus les États-Unis? Il y a cette formule assez forte de Pompeo, la Russie laisse déjà des empreintes dans la neige sous forme de bottes de l'armée, alors ça fait allusion à la remilitarisation d'un certain nombre de bases principalement.
Oui, c'est vrai que la Russie était extrêmement présente en Arctique de manière militaire pendant la guerre froide. Les États-Unis aussi, d'une autre manière, notamment par des bases, notamment au Groenland. Ce qui s'est passé après la guerre froide, c'est que la Russie a un peu délaissé par manque de moyens et aussi d'intérêt ses bases arctiques. Aujourd'hui, elle les réinvestit. Mais pas tant dans une optique militaire de nouvelle guerre ou que sais-je, que plutôt une optique de marquer sa souveraineté, d'occuper le terrain. Mais c'est vrai que les États-Unis, en retour, font un peu la même chose. On remarque des exercices de l'OTAN, des exercices militaires en Norvège, par exemple, l'exercice Cold Response, juste à côté de la Russie. Également, lors du forum de garde-côte le mois dernier, en avril, les États-Unis ont délivré une nouvelle stratégie donc en termes de garde-côte, où on parle également de renforcer les capacités militaires, des militaires des gardes-côtes en Arctique. Et ce qu'on observe, effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu un dilemme de sécurité en relations internationales, c'est-à-dire qu'en perception d'une menace, un pays renforce ses capacités et du coup, en retour, le pays en face va faire la même chose. Et ça va être un peu une escalade sans qu'on voit pour l'instant un seul intérêt pour ces États de créer un conflit, parce que tout le monde a intérêt à la paix pour continuer justement à exploiter cette région qui devient de plus en plus, qui s'ouvre de plus en plus aux investissements.
Et Mike Pompeo devait d'ailleurs aller au Groenland rendre visite à ses forces des gardes-côtes américains, les forces aériennes qui sont en train d'être renforcées. Pour la Chine, il y a eu un chiffre donné par Mike Pompeo aussi étonnant, 90 milliards de dollars d'investissement entre 2012 et 2017. Alors certes, la Chine a construit un, deux ou trois aéroports, je crois, au Groenland, une ambassade assez importante en Islande, mais ça fait pas 90 milliards non plus. À quoi ça correspond ?
D'après moi, ces investissements, ils se font dans de multiples domaines. Il y a d'abord une diplomatie scientifique. D'ailleurs, c'était l'argument pour la Chine afin de rentrer au Conseil de l'Arctique, dire on est capable de participer scientifiquement au Conseil de l'Arctique, aux travaux scientifiques en termes de changement climatique, de développement durable, parce qu'on a une expertise, parce qu'on a de nombreux chercheurs capables de participer. Ça, c'est un premier point. Et scientifiquement, la Chine est extrêmement présente, c'est certain. Ensuite, sa diplomatie, elle se déploie de différentes manières. En Islande, monde, par exemple, la Chine est extrêmement présente. Après la crise très forte, la crise économique qu'avait connue l'Islande en 2008, la Chine était un peu là pour sauver, injecter des millions de dollars dans le pays pour l'aider à se relever de la crise. La Chine est également extrêmement présente au Groenland, où pour les Groenlandais, la présence chinoise représente aussi un peu une opportunité pour le jour où peut-être où ils accéderont à l'indépendance, avoir des investissements qui ne viendraient pas de Copenhague, mais à se demander si c'est pas une autre aussi dépendance qui se crée. Ça, on ne sait pas encore trop. Oui. Et ensuite, la Chine investit dans des projets d'infrastructures absolument énormes, en Sibérie, des projets ferroviaires, des projets, par exemple, en termes dans le gaz, dans le pétrole. Ils sont présents à 30% au projet Yamal en Sibérie. Voilà, donc cet investissement, il se fait de multiples manières, de manière assez intelligente, depuis pas si longtemps, mais de manière très appuyée.
Et elle tient aujourd'hui son propre forum Arctic Circle à Shanghai. On voit donc les États-Unis en ce moment qui ont brisé un certain nombre de consensus, hein, celui sur la protection environnementale, celui sur une organisation essentiellement vouée, on va dire, à la coopération. Et puis, est-ce que le plus important, c'est pas celui-là dont on parle, celui de la concurrence régionale et de la militarisation finalement? C'était les propos d'un général américain chargé du Nord. Il disait, désormais, l'Arctique n'est plus une zone tampon. Est-ce que vous êtes d'accord?
Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que les États-Unis, d'une manière générale, en ce moment, de par l'administration Trump, ne sont pas très enclins au multilatéralisme. D'après moi, ça veut pas dire que l'Arctique va devenir une zone de guerre pour autant. Ce qu'on observe, d'après moi, de la part des États-Unis, c'est surtout un retour de volonté de marquer sa souveraineté parce qu'il y a une perception d'être un peu laissé de côté. Mais tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'autres zones dans le monde qui pourraient se transformer en zone de conflit avant l'Arctique. Personne n'a intérêt, enfin, à ce que ça se passe. Tout le monde a intérêt à une bonne coopération pour justement exploiter ces ressources. La Chine, je pense, dans l'Arctic Circle Forum qui a lieu aujourd'hui et demain à Shanghai, va réaffirmer également sa volonté de coopérer, sa volonté de coopérer pacifiquement, etc. Parce qu'elle aussi, elle a tout intérêt à ce que ça se passe afin de pouvoir poursuivre ses investissements qui sont énormes. Donc, moi, j'ai pas du tout la perception que ça va se transformer en zone de conflit. Ce qui est sûr, c'est que les questions économiques tendent un peu tout le monde, mais pas jusqu'à ce que ça se transforme en zone de conflit.
Oui, bien sûr, il faut le rappeler, tout cela sur fond de changement et de réchauffement climatique accéléré dans la région. Les deux dernières années les plus chaudes et la question des passages du nord-est et du nord-ouest, on suivra ça. Merci beaucoup, en tout cas, de vos explications ce matin, Camille Escudé, géographe, chercheuse à Sciences Po et analyste au groupe d'études géopolitiques de l'ENS. Merci.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'événement Occupation 3. Pendant un mois et demi, le Théâtre de la Bastille ouvre grand ses portes à Nathalie Béas et à son équipe pour Occupation 3. Mêlant spectacle, ateliers et actions poétiques quotidiennes, cette occupation invite à parcourir des paysages qui empruntent au théâtre, aux arts plastiques, à la musique et à la danse pour mieux nous emporter. Une occupation pour laisser à l'autre et au monde la possibilité de nous toucher. Du 13 mai au 29 juin au Théâtre de la Bastille à Paris. Un partenariat France Culture. Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
Et à 6h57, on retrouve la fraîcheur du matin avec Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Oh ben bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et vous nous le présentez enfin, le voici, le Uber de la justice.
Oui, alors j'ai trouvé ce titre idiot hein, pour que vous tendiez l'oreille. Mais derrière cette expression absurde, il y a une vraie question éthique née d'une évolution des techniques. Alors, une vraie révolution, je pèse mes mots, qui pourrait au mieux empêcher un nouveau France Télécom, stopper des criminels comme Harvey Weinstein ou bien provoquer de véritables erreurs judiciaires. Alors je vous explique le principe tel qu'il est développé dans une application qui s'appelle Blind ou dans un projet intitulé Projet Callisto. L'idée, c'est de créer des messageries pour permettre à des groupes d'individus de se retrouver de manière anonyme. Alors un exemple, au sein de votre entreprise, les salariés peuvent rejoindre un chat, un forum, leur identité n'est pas révélée, mais un tiers de confiance vérifie que ces individus existent et qu'ils sont bien salariés de l'entreprise comme ils le prétendent. Et c'est ainsi que vous pouvez dialoguer de manière anonyme au sein d'un groupe restreint pour échanger alors ou bien des propos anodins ou bien aborder des sujets sensibles comme par exemple, je ne sais pas moi, parler salaire ou bien encore dénoncer un prédateur sexuel qui sévirait au sein de l'entreprise. Les utilisations qu'ambitionne ce type de messagerie anonyme, cryptée et communautaires sont absolument immenses. On peut par exemple imaginer qu'on ubérise les syndicats puisque un groupe de salariés pourrait se coaliser pour faire valoir des revendications sans le secours d'aucun syndicat et en restant absolument anonyme. Une protestation à l'échelle de l'entreprise dont il serait possible de connaître l'ampleur, une ampleur garantie bien sûr, sans qu'aucun de ces individus n'ait à se faire connaître. Et on peut aussi imaginer d'autres choses avec ce système d'anonymat et là aussi les conséquences pourraient être immenses. Alors là, c'est ce qu'imagine le projet Callisto qui est développé par des universitaires américains. Dans ce projet, les participants au forum ont leur identité vérifiée, mais ils sont donc toujours anonymes. Et ils peuvent dénoncer les agissements d'un criminel, par exemple, au sein de l'entreprise, une personne qui harcèle des salariés de manière donc sexuelle ou bien un harcèlement moral en révélant son nom de manière anonyme, je veux dire par cet oxymore, qu'il s'agirait de révéler par exemple que Monsieur X a un comportement inapproprié, et si plusieurs salariés désignent le même Monsieur X comme harceleur, alors l'identité de ce Monsieur X est révélée. En fait, voilà pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la notion de l'anonymat public.